enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je crois que le Seigneur veut nous parler de la foi. Ce matin, il y avait une pensée prophétique de Françoise aussi, disant que le Seigneur veut saisir chacun d'entre nous pour faire de nous ce... C'était quoi une trompette, mais pour faire de nous des témoins dans ce monde, chacun d'entre nous. Le Seigneur veut, pour annoncer, tu m'as dit autre chose tout à l'heure, mais bon, peu importe, là je ne me rappelle plus. En tout cas, pour annoncer l'Évangile, faire de nous des témoins, Dieu veut nous équiper pleinement. Et moi, je crois que Dieu est en train de continuer à nous transformer, nous changer de mois en mois, d'année en année. Alors cette année, comme les autres années dans notre Église, nous sommes en train de travailler sur 5 thèmes à chaque fois. De l'adoration, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, puis les relations les uns avec les autres, puis l'évangélisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut partager cette bonne nouvelle avec d'autres autour de nous, puis la formation des nouveaux croyants, et enfin le service. Et là, nous sommes dans 2 mois de service, et comme Olivier le disait, on a fini avec un séminaire sur le service ces derniers jours. Et donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est peut-être quelque chose qui va finir, qui va conclure ces 2 mois sur le service, mais aussi quelque chose qui va nous introduire pour l'été. Normalement, dimanche prochain, je devais prêcher un message qui s'appelait « La parole pour l'été ». Alors, comme on va faire un moment de culte Café Croissant dimanche prochain, c'est ce dimanche, aujourd'hui, que je voudrais vous donner une parole pour l'été. Et probablement, dans 15 jours, vous allez avoir une feuille qui va être comme une lettre de prière pour vous aider pour traverser cet été et on va revoir les choses dans le même sens. Donc comme vous allez le voir bientôt sur l'écran ici arrivé, la foi, c'est quoi ? La foi, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, versets 1 à 6, que la foi est la réalité des choses qu'on espère, la démonstration, c'est-à-dire l'image, des choses qu'on ne voit pas. La foi, finalement, c'est une question d'image. La Bible nous dit, c'est par elle, c'est par la foi que tous ceux qui nous ont précédés ont reçu un bon témoignage. Tous ceux qui nous ont précédés ont reçu de Dieu un bon témoignage parce qu'ils vivaient par la foi. Or, sans la foi, la Bible nous dit, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais la foi, c'est quoi ? La foi, c'est l'image que j'entretiens au-dedans de ma pensée, au-dedans de mon cœur. La foi, c'est la façon dont j'ai une image de Dieu, j'ai une image de moi-même, j'ai une image des autres, j'ai une image de la vie, de l'avenir. L'image entretenue au-dedans de moi s'appelle la foi. Là, tu m'inquiètes, j'ai plus rien du tout là. Super. La foi, une question d'image, n'est-ce pas? Ok, la foi, c'est donc l'image intérieure de réalité que nous ne voyons pas dans le visible. Notre marche chrétienne est le résultat de ce que nous croyons au sujet de Dieu et de nous-mêmes. Notre marche chrétienne, c'est le résultat des choses que nous croyons au sujet de Dieu et de nous-mêmes. Est-ce que ça vient? Je te laisse continuer. Alors, je voudrais également, puisqu'on va avoir une lettre de prière pour l'été, je voudrais vous conseiller de la lecture pendant l'été. Merci beaucoup, Simon. C'est vraiment, à chaque fois on applaudit, parce qu'on a l'impression que c'est magique cette affaire-là, que c'est transpirant. Je voudrais vous donner des conseils de livres à lire pendant l'été qui peuvent vous aider à bâtir votre foi d'une façon extraordinaire. Je vais vous donner des livres qui sont pour moi des livres qui ont déclenché des choses dans ma vie. Ce livre ici de Neil Anderson, cet homme qui enseigne ceci, notre marche chrétienne est le résultat direct de ce que nous croyons de Dieu et de nous-mêmes. Ça s'appelle « Nouvelle vie pour une nouvelle identité en Christ ». Et je crois que ce livre est une explosion. Pour tous ceux qui aiment l'histoire de Wilma Rudolph, c'est dans ce livre-là que je l'avais trouvé. C'est vraiment un excellent livre. Ce livre de David Yonggi-cho, « Saisir l'invisible » nous parle de vivre dans la 4e dimension, c'est-à-dire de vivre avec l'image intérieure de ce que Dieu veut faire dans nos vies, de ne pas vivre une foi juste en paroles, en mots théoriques, mais de vivre en nourrissant dedans de nous, d'apprendre à saisir l'invisible, de voir l'image des choses qu'on ne voit pas. Je veux aussi vous conseiller ce livre pour tous ceux qui ne l'ont pas, qui s'appelle « Branché sur la vie ». Et dans ce livre-là, il y a des confessions de la foi, parce que ce matin, nous allons en faire une particulièrement. Et chaque fois que je fais faire cette confession de foi qui stimule tellement notre vie, plein de gens me disent « Mais où tu trouves ça ?» Là-dedans, dans ce livre-là, qui est une école de prière et qui peut vous aider à passer un été excellent dans la prière et arriver à la rentrée en étant rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu, rempli de la parole de Dieu. Et enfin, ce livre ici aussi, vous trouvez tous les quatre à l'espace média, c'est Mireille qui sera là. Celui-ci, tu veux? De Colin Dye, qui est un homme de... un pasteur d'une des plus grandes églises en Europe, à Londres, et la parole de Dieu dans ma bouche. Combien nous avons besoin d'apprendre à mettre la parole de Dieu dans notre bouche, parce que ce matin, c'est ce que nous allons voir, notre foi épouse notre confession épouse notre foi. Ne laissez pas votre foi seule pleurant dans un coin, donnez à votre foi un époux ou une épouse ce matin, nous le verrons combien c'est biblique ici. Mireille ou Amélie, je ne sais pas, c'est à vous de récupérer les livres, Mireille. Ces quatre livres, vous pouvez vous les procurer après. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires, mais il y en a suffisamment pour que vous soyez bénis, et s'il faut, on fera des commandes. Mais je vous dis, ça, il y a de la puissance dans ces livres-là. Donc la foi, c'est une question d'image. La foi, c'est la réalité des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous sommes tellement conditionnés à nourrir des images négatives. Nous avons des images négatives en ce qui concerne Dieu. Nous avons des images négatives en ce qui concerne nous-mêmes. Nous avons des images négatives sur l'avenir. On est en train de se faire... Le souci, c'est avoir une image négative sur l'avenir. Le souci, c'est d'imaginer que l'avenir va tourner mal. Donc, de la même façon que nous sommes programmés, quand je parle comme ça, certains disent, mais attention, est-ce que ce n'est pas de la science chrétienne là, vous savez? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne suis pas en train de parler, d'essayer de positiver. Je suis en train de dire, je ne vous demande pas de mettre quelque chose de positif dans votre tête, je vous demande de mettre la parole de Dieu dans votre tête. Ce qui change tout. Et c'est comme cela que Paul disait, voyez les choses autrement dans Romains 12. Soyez renouvelés dans votre intelligence par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. La foi, c'est une question d'image. La façon dont nous voyons Dieu, dont nous voyons nous-mêmes, dont nous voyons les autres, dont nous voyons notre avenir. La foi nous permet de corriger l'image que le péché a déformée. La foi, c'est d'accepter de voir la réalité selon Dieu et non pas selon ce que l'éducation nous a donné. Proverbe 3:5 nous dit « Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je vais vous dire une chose qui s'est passée en France il y a bien longtemps et je ne suis pas toujours friand de faire ce genre d'histoire, ce genre de publicité parce que parfois j'aurais peur que certains se prennent pour Saint-Martin, un des grands guerriers spirituels que notre pays a connu. Mais Saint-Martin, qui était un des premiers évangélistes en France, quand il allait dans une ville, le Seigneur lui avait donné le don de discernement des esprits. Et la ville dans laquelle il allait, bien souvent, il venait, et s'il y avait un arbre sacré, la première chose qu'il faisait, il jeûnait 3 jours, et il prenait autorité contre toute puissance au nom de Jésus-Christ qui gardait les gens captifs de cette pensée-là. Il arrivait et il coupait l'arbre. L'arbre sacré. Le village était entier autour de lui, prêt à dire, les dieux vont le maudire. Et il disait, si votre Dieu est puissant, qu'il vienne maintenant me détruire. Mais mon Dieu est plus puissant. Celui qui est en moi est plus grand que celui que vous avez connu jusqu'à ce jour. Vous verrez qu'il n'y a rien à craindre. Et à ce moment-là, les villages entiers se convertissaient. Mais il nous disait, il a écrit ceci, le problème le plus grand que j'ai eu dans toute la France est le problème avec un esprit que les ancêtres, les Romains, les Grecs appelaient Mercure. On trouve cela dans un livre catholique d'un monsieur qui s'appelle Henri Pourrat, et il écrit ceci, si vous le voulez, c'est aussi dans mon livre Francement, une petite pub en passant. Mercure est le grand dieu des Gaulois. Donc saint Martin avoue qu'il a eu beaucoup de difficultés avec ça et il dit, écoutez ce qu'il dit, l'ange de la nation, Mercure, dit ceci, Mercure est l'homme gaulois, l'ingénieux, la personnification de l'adresse, l'astuce, l'art de persuader, d'humaniser. Il est l'homme déifié, ça veut dire l'homme Dieu, qui opère par les ressources de son intelligence, de son esprit et l'habileté de ses mains, de ses techniques, sa bonne humeur, et il opère son propre salut. Il semblerait s'opposer à l'ange Michel, ou Michael, l'ange Michel qui dit, Michael veut dire, qui est semblable à Dieu. Mais Mercure, c'est l'humanisme, le recours à soi. Michael ou Michel, c'est le recours à Dieu. Il y avait d'ailleurs en France, en ce temps-là, quand Martin est venu, il y avait une montagne qu'on appelait le mont Mercure. Et Saint-Martin a combattu pour amener l'évangile là-bas, et aujourd'hui, il a proclamé que cette terre s'appelle le mont Saint-Michel, le mont Saint-Michael, pour dire, ce n'est plus simplement la propre intelligence qui va dominer sur ce pays, c'est qui peut être semblable à Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Et je peux vous dire, pour moi, le cœur, la raison même pour laquelle les Français ont un mal inouï à se tourner vers Dieu, réside ici dans la question de la foi. Les Français ont une grande foi, mal placée. Ont une grande foi dans leur capacité, leur astuce, leur ingéniosité, leur humour, leur propre littérature, leur propre pensée. Une grande foi, la foi de Mercure. Et nous sommes dans ce défi-là aujourd'hui. En quoi allons-nous placer notre foi ? Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas, ne te confie pas dans ta propre sagesse, dans ton propre raisonnement. Quel est le fruit du raisonnement humain ? Quel est le fruit quand nous nous appuyons sur nous-mêmes ? Jérémie 17 dit « Le fruit sera le désert pour l'homme qui se confie dans l'homme. Le fruit sera l'angoisse. Le fruit sera la dépression. » Regardez notre pays, des records de suicides, des records de dépression qui sont là. Quelle est l'origine de ça ? Une foi mal placée, une image continuellement entretenue. Je peux le faire. Je n'ai pas besoin de dépendre de Dieu. Vous croyez que c'est pourquoi qu'aujourd'hui, il y a des grandes églises en France, d'Africains. Avant, on disait, la France est un terrain difficile. Aujourd'hui, il y a la preuve que la France n'est pas un terrain difficile. Il y a plein de grandes églises en France aujourd'hui. Plein de gens qui répondent à l'évangile. La question n'est pas une question de terrain. Vous allez me dire, alors c'est une question de couleur de peau. Dieu aime pas le blanc. Dieu aime aussi le blanc. C'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de ce que tu entretiens, de ce que j'entretiens dans nos têtes, des pensées que nous nourrissons. C'est une question d'image. C'est chaque fois que tu prononces par ta bouche une parole qui donne une image négative de Dieu. Chaque fois que tu prononces par ta bouche une parole qui donne une image négative de toi. Chaque fois que tu laisses passer par ta bouche une image négative de quelqu'un d'autre ou une image négative de l'avenir, tu es en train d'élever une barrière contre l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi bien souvent nous sommes dans la prière en train de demander des choses à Dieu. 5 minutes après, nous annulons toute prière par ce qui sort de notre bouche. Parce que Dieu ne joue pas à être Dieu. On ne dit pas, Seigneur, maintenant, pousse pour la vie, je rentre dans la prière. Seigneur, on joue à la prière. Je prie, t'écoute, t'exauce. On finit, stop, pousse, je joue plus. Et là, on sort et on dit toutes choses négatives. On dit, Seigneur, surtout, n'écoute pas ce que je dis, parce que je vais sortir de là et je vais dire exactement tout le contraire de tout ce que je t'ai demandé, parce que je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Et le fond de tout ça se repose sur cette confiance en qui nous plaçons notre foi. L'humain, l'humaniste, Mercure, c'est l'humanisme, le recours à soi. Le recours à soi, ou alors le recours à Dieu. Notre marche chrétienne est le résultat direct de ce que nous croyons. C'est pourquoi, si notre éducation, si notre notre naissance, parce que nous sommes nés avec une image cassée. C'est ça le péché. Il a détruit une image. Mais notre éducation a formé cette image qui est cassée, qui est détruite de Dieu, de la parole de Dieu, de la vie, etc. C'est pourquoi nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. On ne lit pas la Bible juste pour pouvoir dire « Seigneur, j'ai accompli mon devoir ». On lit la Bible parce que nous sommes des êtres extrêmement cassés, perturbés, pollués et dangereux. Si nous ne lisons pas la Bible, nous sommes tous des malades mentaux, mes amis. Nous sommes tous dans nos têtes malades. Certains me disent, moi, je dis tout ce que je pense. Je dis, ben, le dis pas à moi, parce que je sais très bien tout ce qui passe dans la tête de quelqu'un, d'un être humain. Si encore nous avions la pensée de Christ, tu pourrais dire tout ce que tu penses. Mais regardez toutes les pensées que vous avez dans une journée. Combien de pensées sont amenées à l'obéissance de Christ? Combien d'images dans nos têtes sont des oppositions à la volonté de Dieu? C'est pourquoi je dis, il y a un peu de maladie dans notre mental. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous avons besoin d'être renouvelés. Parce que la foi, c'est une question de changer l'image. Tu changes peu à peu ton image de Dieu, ton image de toi-même. Alors, la parole de Dieu nous dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. » Quand on lit cela, on pense bien entendu à ces idoles, ces figurines affreuses, des statuettes horribles qui sont censées représenter Dieu. Comme le psaume 106, verset 20, dit « Ils ont échangé leur gloire contre l'image d'un homme qui mange de l'herbe. » Ou d'un bœuf, pardon, qui mange de l'herbe. Oh, ouais. J'aurais dû dire une femme qui mange de la salade, mais là, c'était pas... Je regrette, c'était un bœuf qui mange de l'herbe. Je me suis trompé. Je vous demande pardon de m'humilier en m'excusant. Ésaïe 44, verset 16, nous dit « L'humain est stupide, ça parle de nous, mais ça parle des gens idolâtres. Ils prennent un morceau de bois, avec la moitié de ce bois, ils font un feu, et dessus, ils font cuire leur soupe, et ils disent « Ah, je vois la flamme, je me réchauffe, et bientôt je vais manger ma soupe. » Et après, il reste une moitié de bois, et ils disent « Oh, je vais m'en faire un dieu. » Et ils viennent et ils se font une statue, et ils se prosternent « Oh Dieu, oh Dieu !» Et le Seigneur regarde et dit « Mais patate, tu viens de manger ta soupe avec ça et maintenant t'appelles ça un Dieu. » Ça c'est version Philippe Jeret, Ésaïe 44, versets 16 et 17. Mais c'est quand même ce que le texte dit. Dieu est étonné à quel point nous sommes parfois stupides. Osée 13, verset 2, ils continuent à pécher, ils se font une image de métal fondu avec leur argent, se font des idoles de leur invention. Et ces idoles corrompent profondément. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, les quadrupèdes, les reptiles, etc., et les oiseaux. C'est pourquoi ils sont livrés à la corruption. Toute corruption vient, toute corruption physique, toute corruption pornographique, toute corruption obscène procède d'abord d'une fausse adoration, d'abord d'une fausse image de Dieu. L'adoration guérit tout. De la même façon qu'un homme s'attache à une prostituée, un homme peut s'attacher en esprit à son Dieu, 1 Corinthiens 6, 17. Et là, la source pure qui rectifie toutes les images vient au-dedans de lui. Il commence cette voie de restauration. Mais, on va dire ça c'est facile, Philippe, tu es en train de parler des statuettes de tout genre, etc. On sait, nous on ne fait pas ça. Mais alors je vais vous parler d'une autre sorte d'image. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu ne te feras point d'image taillée, ni une représentation quelconque. Représentation quelconque. Vous savez que bien souvent nous avons des représentations quelconques de Dieu. Comment tu le vois? Représentation quelconque. C'est si important pour Dieu qu'il en a fait le premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu m'aimeras de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Tu ne te feras pas d'image taillée, d'image déformée de moi, ni de représentation quelconque. Quand nous voyons Dieu comme un tyran, c'est une représentation déformée. Rien n'est pire pour un être humain que de voir ses bien-aimés lui prêter de mauvaises intentions et avoir une fausse image de lui. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un que vous aimez vous prête une mauvaise intention et commence à avoir une mauvaise image de vous, n'est-ce pas? Ça fait mal, ça fait mal. Comprenez avec ça comment Dieu le Père peut ressentir quand il dit « Ah mais Dieu, non, c'est un tyran distant, lointain. Ou alors, comme la Katia nous disait ce matin, elle est où la Katia? Ah, bon, en plus devant est coloré. Pardon, Katia. Comme elle nous disait ce matin, je dis la Katia, mais ce n'est pas péjoratif, c'est comme ça qu'on dit dans son langage, dans son monde. Elle nous parlait d'un vieux papy mou et anxieux. C'est une image quelconque. Vous savez, le vieux qui est dans le ciel, sur son fauteuil, ça fait longtemps qu'il tient le pauvre, mais là, il n'a pas le moral. Hein. Heureusement qu'il y a une église qui essaye de le soutenir un peu, parce que franchement, d'abord maintenant, l'histoire va trop vite pour lui avec Internet et tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il était déjà là au temps d'Abraham et des chameaux. Donc comment il va se débrouiller aujourd'hui, hein? Vous savez, eh bien, quand on pense ça à un Dieu, quand on fige une image de Dieu au 16e siècle, au 20e siècle, quand je fige une image de Dieu, si ton image de Dieu est figée parce que tu t'es converti il y a 8 ans, tu as déjà fait une image taillée. Ça y est, ton image est faite. L'image de Dieu doit se renouveler continuellement par l'adoration. Certains vont dire, à la rentrée, Philippe, on reprend 2 mois sur découvrir l'adoration. Oui, parce que si jamais toi, tu as fini de le découvrir, moi non. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes un certain nombre à être conscients que nous sommes en besoin de le découvrir et que mon image de Dieu doit être en renouvellement constant. Je veux le découvrir, je veux le connaître, je veux savoir comment il est. Toutes ces images d'un Dieu impersonnel, toutes ces choses-là sont des choses qui chagrinent le cœur du Seigneur. Quand notre image de Dieu est marquée par des sentiments aigres, pessimistes, au lieu de la parole de Dieu, au lieu de voir que nous avons un Dieu bon, puissant, généreux, qui est en contrôle, qui prévoit que toutes choses concourent au bien de ses enfants, quand nous commençons à dire autre chose, nous sommes en train de faire une image déformée de Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée. Je vous parle de l'image qui est au-dedans de vous, dans votre tête, dans votre cœur. Quelle est ton image de Dieu? Si ton image est en découverte, c'est bon, elle est en évolution. Si c'est un film, c'est bon. Mais si c'est une photo arrêtée, une sculpture arrêtée, tu es en danger. Il est, on l'a chanté ce matin, le grand je suis, le Yahvé, ça veut dire le Dieu qui dit je suis celui qui suis. Et il est ce Dieu, Yahvé Jiré, c'est-à-dire je suis la source de ta provision pour le salut. Je suis la source de ta guérison. Je suis la source de ta bannière. C'est moi ton drapeau et ta fierté. Je suis l'Éternel des armées. Je dirige le monde invisible et je mets les anges à ton service. Je suis le Seigneur Mkadesh, ça veut dire le Dieu qui te sanctifie. Quand tu es en contact avec moi, une source pure passe dans tes pensées. Une source pure passe dans tes désirs. Une source pure passe dans tes émotions. Je suis Yahvé Shalom, le Seigneur qui met fin à la mésentente, qui met fin aux angoisses, aux anxiétés. Je développe une paix profonde dans ta vie. Je suis Yahvé Roer, l'Éternel, celui qui est le berger, le guide, qui prend soin, qui t'accompagne jusqu'à la fin de tes jours. Je serai toujours là, près de toi. Jamais je ne te laisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Je l'ai juré par moi-même. Voilà qui est notre Dieu. Je suis Yahvé Tsidkenu, le Seigneur, notre justice, la source de celui qui nous justifie. Même si quelqu'un a péché, tu as péché hier soir? Moi aussi. Moi aussi. Mais il est celui à qui on peut venir dire, Seigneur, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Bon, quand je dis j'ai péché, ça ne veut pas dire je suis allé assassiner 2 personnes et exploiter 5 prostituées. C'est trop pour moi. 5. Non. Non. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, je me suis aigri dans mon cœur contre ma femme. Je lui ai dit, arrête maintenant. Puis j'ai senti que j'étais aigri, que la parole sortait de ma bouche n'était pas juste. J'ai péché. Donc, ah, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Bien, je viens devant Dieu. Seigneur, purifie-moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et je sais que c'est de moins en moins long avant de croire que la parole de Dieu s'accomplit. Mais après, je sentais que ça y est, c'est bon. Merci Seigneur, je suis pardonné. Je peux relever la tête. Je peux te louer, t'aimer librement, dormir cette nuit, être en paix, prêcher la parole de Dieu demain. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est le Dieu qui me justifie. Il est Yahvé Shama, le Seigneur qui est présent au milieu de nous. C'était bon la présence de Dieu ce matin, le Dieu qui est présent dans sa cité. Voilà mon Dieu. Nous avons besoin d'entretenir une image plus juste de notre Père. Alors c'est pourquoi je vais vous inviter régulièrement, peut-être on mettra ça sur la lettre de nouvelles aussi, Je renonce au mensonge qui prétend que Dieu mon Père est distant et indifférent. J'accepte avec joie, je reçois la vérité qui affirme dans la Bible que Dieu mon Père est proche et concerné. Le psaume 139 me dit qu'il me connaît depuis que je suis né, avant même que je naisse, qu'il est attentif à tous mes gestes, même quand je me lève, quand je peux me mettre à être furieux, quand je suis découragé, quand je veux fuir, quand je veux rester, quand il est toujours celui qui me connaît. Il est proche et il est concerné par ma vie. J'accepte ce que la parole de Dieu dit de mon Dieu. Je renonce au mensonge qui prétend que Dieu mon Père est insensible et dur. Et je confesse, j'ai foi que mon Dieu est bon et compatissant, comme le psaume 103, verset 8-14 le dit. Comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Et comme il est autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dieu est bon. Je renonce au mensonge qui dit que Dieu mon Père est sévère et exigeant. Et j'accepte avec joie quand la Bible me dit qu'il est accueillant, plein de joie et plein d'amour. Comme Sophonie 3:17 le dit, le Seigneur est un héros qui sauve. Quand tu vas venir vers lui, il se lèvera avec des transports d'allégresse pour toi. Je suis sûr que si Dieu vient à notre culte un jour, il ne va pas rester sur la chaise pendant le culte. Parce que Sophonie 3:17 me dit que quand il voit un de ses enfants, il bondit de joie et il viendra tournoyer avec toi ce matin. Quand chanter, j'ai foi en toi. Je disais à Isabelle, écoute, presque si j'étais pas pasteur ou si les autres me permettaient, on dansait un petit rock sur ce chant. Parce que quand même, il y a quelque chose dans ce chant, n'est-ce pas? Hein? Alors je vous préviens comme ça la prochaine fois. Sophonie 3:17, il aura pour toi des transports d'allégresse. Mon Dieu est un Dieu de joie. Mon Dieu est un Dieu bienheureux. Mon Dieu n'est pas grincheux, comme la parole de Dieu me dit que c'est un Dieu bienheureux. Je renonce au mensonge qui dit que mon Dieu est passif et serait passif et froid. Il est chaleureux et affectueux. Osée 11:4 me dit, je t'attirerai avec des cordages d'amour et des liens d'humanité. Même je me ferai humain pour t'attirer, pour que tu comprennes, parce que je désire ta présence, je désire ta communion. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père est absent ou trop occupé pour moi. Je crois ce que la Bible dit dans Jérémie 31:3, il désire toujours être avec moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je renonce au mensonge qui dit que Dieu est jamais satisfait de moi, qu'il est impatient ou irrité, parce que la Bible me dit que Dieu mon Père est lent à la colère, riche en bonté, qu'il ne tient pas compte de nos iniquités. Dieu est bon, il est pardonnant, il est miséricordieux, il est merveilleux. C'est ce Dieu-là que je veux, c'est ce Dieu-là que nous avons ici à Clé, c'est ce Dieu-là, cette image-là que nous voulons former. C'est pourquoi, si jamais tu comprends pas pourquoi nous sommes si enthousiastes pour l'adorer, c'est peut-être parce que toi, quand tu vois ce côté-là, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu sais quoi? On l'a vu ici. On sait qu'il est comme ça. C'est pourquoi il y a des transports d'allégresse au-dedans de nous. De la même façon, parce que nous renonçons à croire que le Dieu que nous avons est méchant, cruel ou malveillant. Mais comme la Bible dit dans Jérémie 29:11, j'ai formé pour toi seulement des projets de paix et de bonheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Il est un Dieu qui a formé des projets sur nous. Je renonce à croire qu'il serait soucieux de supprimer tous les bons côtés de la vie. Vous savez, au moment où tu vas prendre ton petit verre de vin et dire « attention !» Moi, je crois que le Seigneur trinque avec nous. Je ne vous dis pas de boire 2 litres. Il ne faut pas être stupide, non, mais je crois que Jésus buvait, non pas en train de se saouler, mais juste parce que c'est Dieu qui est l'auteur de tout bienfait. Et Dieu nous donne une vie abondante. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Il nous fait jouir des bonnes choses dans la vie. Je refuse de croire que Dieu serait autoritariste et manipulateur. Je sais qu'il est plein de grâce et qu'il me donne même la liberté de vivre un échec. Tu peux vivre un échec et Dieu continuera à te faire grâce. Ce n'est pas un sauf-conduit pour en vivre sans arrêt. Ce n'est pas une autorisation de vivre dans l'échec volontairement. Mais il est un Dieu de grâce. Dès que tu fais un pas, il bondit vers toi parce qu'il nous aime. C'est ce Dieu-là que je vais entretenir au-dedans de mon cœur comme image. Je refuse de croire que Dieu serait réprobateur et impitoyable. Je crois qu'il est prompt à pardonner et que ses bras sont ouverts, comme le Père est allé courir les bras ouverts pour accueillir le Fils prodigue, comme Ésaïe 55, 7 nous dit, il est prompt à pardonner. Il a vu l'égarement, mais maintenant il est prompt à pardonner. Je refuse de croire que Dieu, mon Père, serait tatillon, maniaque ou intraitable. Moi, je crois ce que la Bible dit. Il favorise ma croissance. Il est fier de voir chacun de ses enfants grandir. Et le projet qu'il a en nous voyant grandir, c'est ce que Hugues nous a fait confesser en début de culte, Romains 8, 29. Il va nous rendre semblables à l'image de Jésus. Il nous transforme et nous rend semblables à l'image de Jésus. Et il va toujours chercher à favoriser notre croissance. Je crois à un Dieu bon. Je crois à un Dieu juste. Je crois à un Dieu puissant. Je ne crois pas à un Dieu qui est dépassé par les événements. Je crois qu'il est souverain. Je crois que quand il parle, Satan a peur et tremble. Je crois que Satan, comme Reinhard Bonnke l'a dit, devant Dieu, Satan n'est qu'une souris avec un microphone, devant Dieu, parce que Dieu est puissant, tellement plus puissant que celui qui est simplement un bluffeur et celui qui parle simplement pour nous accuser. Je crois que mon Dieu est souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs, tout puissant. Il aura le dernier mot dans l'histoire et il aura le dernier mot dans notre pays. Voilà le Dieu auquel je crois. Et je crois en plus, comme la Bible dit, que je suis la prunelle de ses yeux. Dis à ton voisin, tu sais, je suis la prunelle de ses yeux. Alléluia. Amen. Quelle image nourrissons-nous de Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, 17, prie pour que nous ayons les yeux du cœur qui soient ouverts. Il y a un chant dans lequel ils ouvrent les yeux de mon cœur pour que je te voie comme tu es, que mon image de toi soit rafraîchie, soit renouvelée. Voilà une église qui va grandir dans la foi parce qu'elle aura une belle image de Dieu. Maintenant, nous avons aussi parfois une mauvaise image de nous-mêmes et la foi va nous apprendre non seulement à voir Dieu tel qu'il est, mais nous apprendre à nous voir nous aussi, tel que nous sommes, comme nous l'avons entendu ce matin. Voilà ce qu'a fait la tradition, voilà ce qu'ont fait des paroles d'autorité sur nous, voilà ce qu'ont fait nos fautes, nos échecs, font que quand on se regarde aujourd'hui, on a une allure bizarre à nos propres yeux. Pas simplement, il y a la glace déformante du péché, de nos échecs, des paroles d'autorité. Vous savez, une parole d'autorité fait quelque chose, elle nous poursuit. Et on continue parfois à rester prisonnier de cette parole. Ah, on m'a dit que je suis dur, donc il faut que je croie que je suis dur. Et donc je vais me comporter comme dur. Mais chasse cette parole d'autorité. À jamais Dieu a dit cela de toi. Dieu dit que tu es une merveilleuse créature et que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, de la même façon que tu dois confesser ta foi sur qui est Dieu, tu dois le faire sur toi de cette même façon-là. Sans quoi ? Nous nions ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Il nous a estimés au prix du sang de Jésus. Il a payé un grand prix pour nous. C'est pourquoi quand nous disons « je ne vaux rien », nous sommes en train d'insulter le salut de Jésus-Christ. Chaque fois que tu dis « je suis nul », s'il te plaît, tu es en train d'insulter le prix du sang de Jésus. C'est pourquoi tu ne peux plus dire « je suis un nul, je suis une nulle ». C'est une offense au sang de Jésus qui a coulé, au prix auquel le Père t'a estimé. Quelle rébellion ouverte, quelle toupet de dire « je suis nul ». Quel orgueil pour la personne qui dit « je suis nul ». Le prochain que j'entends dire « je suis nul », je vais te donner un diplôme du roi des orgueilleux. Parce que c'est réellement un orgueil. Quel toupet, quel affront de dire « Dieu, tu as tort. Je ne vaux pas le prix auquel tu m'as estimé. » Moi, je suis nul. Tu t'es trompé. C'est une déclaration de rébellion que de dire je suis nul. C'est pourquoi nous avons besoin de renouveler cette image de nous-mêmes selon la parole de Dieu. Ne fais pas de toi-même une image taillée, déformante. Dieu a bien mieux pour toi. Quand nous nous regardons, non, c'est pas Jean-Claude. Un partout. Tu sais, c'est ce que je veux dire ce matin. Pas tant que ça, parce que tu le dis tout le temps. Le péché a déformé l'image de nous-mêmes. Et nous devons choisir aujourd'hui ce que nous croyons. Quelle image avez-vous de vous-même ? Ici, ces personnes se regardent dans une glace déformante. Imaginez qu'au lieu que ce soit une glace déformante physique, ce soit la glace déformante de toutes les paroles négatives qui ont été dites sur vous, que vous avez dit de vous. Et vous vous regardez dedans chaque jour. Vous finissez par croire que vous êtes l'image qui est réfléchie ici. Et cette image, elle revient. Vous avez entendu des mots. Les mots forment des images. Écoutez ceci. Si je dis maison, voiture, chien, arbre vert, qu'est-ce que vous entendez? Vous n'entendez pas que des sons. Au moment où je le dis, vous vous faites une image. N'est-ce pas? Une parole, ce n'est pas qu'un son. C'est l'image que nous faisons tout de suite. Quand vous avez entendu des paroles sur vous, négatives, aussitôt, vous vous êtes fait une image. Et ces images-là, aujourd'hui, sont des images qui vous poursuivent, qui vous conditionnent. Et chaque fois que vous vous regardez, malheureusement, vous vous regardez avec ces images. Donc peut-être un jour, il va falloir cesser de dire qu'on est orgueilleux. Parce que tu es une nouvelle créature, et moi je te vois grandir dans une vraie humilité, une vraie honnêteté, une vraie ressemblance à Jésus. Béni soit Dieu. Je t'aime tout plein. Amen. La Bible nous dit, du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne un trône de gloire. L'homme est tel que sont les arrières-pensées de son âme, nous dit Proverbe 20, verset 7. Tu es ce que tu crois que tu es dans les arrières-pensées de ton âme. Si on avait eu M. Freud, il aurait appelé ça le subconscient ou l'inconscient. Mais tu es ce que tu as avalé. Et tu as avalé des images paralysantes sur toi-même. C'est pourquoi il faut changer ça aujourd'hui. Sachant que vous avez été crucifié avec Christ, Romains 6, 6. Regardez-vous vous-même en lui. Regardez-vous vous-même en lui. Sachant que vous avez été crucifié avec Christ. C'est pourquoi on doit lire la parole de Dieu. Regardez-vous vous-même. Que votre regard sur vous-même change. Hier, je disais à une personne qui luttait pendant le séminaire, sûrement sur l'image d'elle-même, j'ai dit à cette personne, tu vois le petit chat ou le lion? Tu vois le petit chat ou le lion? Ça fait quelques fois que je vous la passe celle-là. Parce que j'espère une chose, c'est quand vous allez accepter maintenant de plus voir au travers de la glace déformante l'image de vous-même, mais au travers de la glace de la foi, qui vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous paraissez être, vous êtes bien plus que ça. Christ au-dedans de vous. Vous êtes bien plus que ça. Mais encore une fois, vous êtes là, un être humain, physique, et vous avez le choix. Est-ce que je vais m'appuyer sur ma sagesse, la logique, les choses que les humains m'ont dit, et me voir tout à fait déformé ici, ou est-ce que je vais m'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit, et me voir tel que Dieu dit que je suis? Mais dans les deux cas, vous avez une image de vous par la foi en des paroles qui vous sont données. Dans les deux cas, soit vous avez foi dans les paroles que les humains ont prononcées sur vous et vous voyez misérable, soit vous avez foi dans les paroles que Dieu dit de vous et vous êtes un être humain glorieux. C'est pourquoi nous n'aurons jamais de victoire si nous ressassons continuellement nos fautes, nos manques, nos erreurs, nos échecs, nos insuffisances, la façon dont on se voit nous-mêmes va changer totalement notre comportement. Il y avait un jeune garçon qui s'appelait Loïc, qui était en fac pour la première année. Loïc se voyait, alors c'est pas le tien parce qu'il était en fac, donc je parle de personne qui est ici, comme ça tout le monde est rassuré. Loïc se voyait comme une masse de glandes salivaires, de papilles gustatives et de testostérone. Donc, c'est-à-dire, il avait une image très très biologique de lui, autrement dit, il se voyait donc comme cette masse de glandes qui faisait que il vivait selon ce qu'il se voyait. C'est-à-dire, il mangeait et il courait les filles. Il mangeait tout ce qu'il trouvait, n'importe comment, rentrait dans les fast-food, prenant 3-4 hamburgers, prenant plein de trucs, mangeant n'importe comment. Et quand il voyait un jupon au loin, il se mettait à courir. Et un jour, il a vu Sophie au loin et il s'est mis à courir. Elle était de l'autre côté du campus de la fac, mais vraiment, ça fait un moment qu'il lorgnait Sophie. Alors, il s'est mis à courir, mais il a croisé le prof d'athlétisme. Quand le prof d'athlétisme a vu Loïc courir, il a dit, mais Loïc, arrête-toi. Mais tu sais courir, mais tu as un potentiel. Et Loïc, vous savez, il n'était pas intéressé. Juste ce qu'il voulait, lui, il va me faire louper Sophie, elle est en train de partir, et je vais la louper. Alors, il était là, non, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, Le prof n'a pas laissé tomber. Quelque temps après, il a réussi à le convaincre et Loïc a commencé des entraînements. Et puis, il a pris conscience qu'il pouvait réellement courir. Il commençait à gagner des courses à la fac. Alors, il a tellement réussi que peu à peu, il a été au niveau national. Et un jour, il est dans la course nationale, la finale nationale. Et là, avant le départ, il est sur la piste en train de se promener. Et juste, il y a quelqu'un qui arrive. C'est Sophie. Et elle tient un immense gâteau qui ruisselle de bon chocolat. Et elle dit, Loïc, elle avait mis les petits vêtements décolletés histoire d'être aussi appétissante que le gâteau. Et elle lui dit, Loïc, tu sais, si tu viens avec moi de ce côté de la barrière, ce gâteau sera pour toi et moi avec. Non, elle était jolie, Bernadette. Elle semblait jolie. Dans mon histoire, en tout cas, elle était jolie quand j'ai lu l'histoire. Mais lui, il a dit, non, c'est tout à fait impossible. Il n'avait pas question. Alors elle était étonnée. Et pourquoi? Parce que je suis un athlète. Est-ce que Loïc avait changé à ce point-là? Est-ce qu'il n'était pas capable de manger un gâteau au chocolat? Ou aussi, il en avait mangé 6. Est-ce qu'il n'était pas capable de partir avec Sophie et vivre une relation amoureuse? Aussi. Est-ce qu'il n'avait pas envie dans ses émotions? Aussi. Mais il y avait quelque chose de plus important. Parce que la perception qu'il avait de lui-même avait changé. Aujourd'hui, il n'était plus une masse de glandes, il était un athlète. Et c'est pourquoi il s'entraînait plusieurs fois par semaine. C'est pourquoi il avait changé ses habitudes alimentaires. C'est pourquoi son hygiène de vie avait changé. Et il aurait été d'accord pour une relation avec Sophie dans les bonnes normes. Mais il n'était plus cette masse de glandes qu'il avait perçue de lui-même autrefois. Il était un athlète. Comment tu te perçois? La façon dont tu te perçois va déterminer la façon dont tu vas vivre. Vous avez avalé des pensées paralysantes sur vous-même. Vous êtes retourné sur le banc des remplaçants à l'infirmerie depuis trop longtemps. Et moi, ce matin, j'aimerais vous aider à sortir de cette infirmerie. J'aimerais que vous passiez d'une mentalité de victime à une mentalité de plus que vainqueur. Quand allons-nous quitter le bateau des lamentations et des pleurs de ceux qui attendent de couler pour pouvoir marcher sur l'eau et embarquer dans l'aventure de la foi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes de la race élue, d'une nation sainte. Vous savez, c'est pourquoi la foi épouse notre confession. Jacques nous dit un verset très très intéressant. Je l'ai lu des centaines de fois sans jamais voir le mot grec. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait. En grec, le mot homme se dit anthropos. Et ici, Jacques n'emploie pas le mot homme, il emploie le mot mari, aner. Le mot mari. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, il est en train de nous parler de la foi, et il nous dit, si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un mari parfait. Ça veut dire quoi? Ça marche comment ce verset-là pour les célibataires? En fait, il n'est pas en train de dire que le gars est un mari parfait. Il est en train de dire, ses paroles épousent sa foi. Sa foi est devenue un mari parfait avec ses paroles. Voyez, si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, sa foi épouse sa confession. Et ça, c'est quelque chose de si important. Alors ça, c'est différents moyens de faire en sorte que ce soit un mari qui ne commet pas d'écart de parole. Ce n'est pas toujours les meilleurs moyens. Mais ceci est vrai. Votre réussite sera à la mesure de votre confession et de la ténacité avec laquelle vous vous accrochez à la parole de Dieu en toutes circonstances. Il y a un choix à faire. Dans Lamentations 3, verset 18, Jérémie dit ceci. Alors j'ai dit, je vais vous le lire, c'est plus facile. J'ai dit ma parole, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance. Quand je pense, l'image, je mets en dedans de moi l'image de ma détresse et de ma misère, le poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au dedans de moi. Ça, c'est très français. Je mets un programme négatif et je suis abattu. Voici ce que je choisis, ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est un acte de volonté, c'est une décision, il y a un choix à faire. Je veux repasser dans mon cœur ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. C'est pourquoi, malgré les circonstances, je choisis d'amener toutes mes pensées, toutes mes images, captives de l'obéissance de Christ, nous dit 2 Corinthiens 10, verset 4 et verset 5. Votre confession de foi ne peut pas être une confession juste positive. Il faut que ce soit la confession de la parole de Dieu. Alors on va faire un peu de musculation ce matin. Je vais demander de vous lever et on va confesser cela ensemble pour une minute ou deux. Vous allez voir que ça va bien. Vous faites donner de la voix, mettez du son à votre micro et on y va. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis né de la semence de Dieu. Je suis régénéré par une semence incorruptible. Dieu m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et je le suis. Je suis participant de la nature divine. Je suis donc une merveilleuse créature. J'ai été élu avant la fondation du monde pour devenir son enfant. J'ai été prédestiné au salut et à la gloire en Christ. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. J'ai été délivré de l'autorité des ténèbres et je suis dans le royaume du Fils de son amour. Je suis racheté à grand prix par le Seigneur lui-même. Je suis parfaitement pardonné car le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Je suis justice de Dieu en Christ. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis racheté de la malédiction et je suis béni comme Abraham l'a été. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle en Christ. Je suis mort avec Christ à tout ce qui faisait ma vie selon la chair. Je suis ressuscité avec Christ et assis en Christ dans les lieux célestes. Je suis de la nation sainte, de la race élue. Je fais partie du sacerdoce royal. Je suis un vainqueur, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. En toutes circonstances, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Béni soit Dieu. Chaque parole ici est un verset de la Bible. Je pourrais vous donner les références de chaque verset ici. Quand je confesse la parole de Dieu, la foi vient de ce que j'entends. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. La foi vient de ce que l'on entend. Vous savez, ça nous a pris une minute de faire ça. Moi, je vous dis, faites une minute de vitamine. Cette confession et d'autres, matin, midi, soir ou matin et soir. Une minute, c'est rien. Mais quand vous le faites, vous êtes en train de renouveler au-dedans de vous l'image véritable de vous-même. Faites-vous entendre la parole de Dieu. Bâtissez votre foi. Hébreux 4, 14 nous dit, demeurez ferme dans la confession de la foi. Il y a toutes sortes de circonstances qui parlent contre ce que la parole de Dieu dit dans nos vies. J'ai le choix de savoir à quoi je vais croire. Ne croyez pas que ce soit plus facile pour moi. Il y a des domaines dans ma vie, dans ma famille. Il y a des domaines dans lesquels je suis obligé de m'accrocher à la parole de Dieu. Et je ne vous dis pas que je le fais les doigts dans le nez. D'abord parce que je suis poli et deuxièmement, parce que c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça des moments, mais je sais une chose. J'ai un repère, une encre dans ma vie. Je m'accroche à la parole de Dieu et je ne serai pas confus. Il a promis, quiconque prend son appui sur lui ne sera pas confus. Mes attentes ne seront pas trompées, mais je sais en qui j'ai cru. Et je veux entretenir cette image de la foi au-dedans de mon cœur. Béni soit Dieu. Je vais aller plus vite là-dessus, peut-être on en parlera dans l'année, mais la Bible nous dit d'avoir une saine image des autres. Désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ne vous comparez pas aux autres. Parce que si vous vous comparez, soit vous allez être découragé, soit vous allez les juger. Bénissez les autres et soyez vous-même. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. Celui-ci, il a dû avoir quelques paroles très lacérées envers les autres. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Dites du bien. La bénédiction des autres, c'est un choix de l'image que nous voulons entretenir d'eux. Moi, je peux vous dire, certains se sont fait une image sur d'autres ici. Et dans ta tête, tu dois le libérer et dire, cette personne-là n'est plus comme ça. Parfois, quand nos enfants grandissent, à un moment donné, souvent dans le moment de l'adolescence, on ne sait jamais quand est-ce qu'il a appuyé sur le bouton enfant ou sur le bouton adulte. Mais quand vous vous trompez d'image, vous dites, tu me figes dans l'ancienne image, et c'est blessant, et c'est vrai, et c'est vrai. Et il y a des moments où même nous-mêmes, moi-même, il y a des moments où je n'ai pas vu comme le cap était passé. Et ça, c'est les moments où on peut être blessant. Mais je peux vous dire, autour de vous, dans cette église, il y a des gens qui ont grandi. Chacun grandit. Moi, je peux vous assurer, je l'espère, je grandis avec Jésus. Et donc, l'image de moi aujourd'hui n'est pas l'image de moi il y a 3 ans, n'est pas l'image de moi il y a 10 ans. Béni soit Dieu, Je grandis avec Jésus. Je me repens. Je laisse me transformer. Je suis devant lui. J'apprends de la parole de Dieu. C'est pourquoi libérons-nous les uns les autres et soignons cela. Alors, une image de ce que nous pouvons faire maintenant. Ne dis plus jamais « je ne peux pas ». Ça, c'est une confession que nous devons faire. Je ne dirai plus que je ne peux pas. Parce que la Bible dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout est possible à celui qui croit. Dieu m'a rendu capable. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pour ça que ce matin, je me demandais s'ils savaient le thème de ma prédication. Je vous dis, quand c'est comme ça, c'est que vraiment Dieu, sans vouloir insister sur ce sujet pour nous. Et je crois que Clé va passer un cap de croissance par l'intégration de la foi à notre façon d'aborder la vie. Il y a une clé de la foi qui nous attend. Et dans cette année 2006, c'est vraiment comme un programme pour moi. Il y a comme un climat de foi. Ne manquez pas le camp de foi à la rentrée avec André Desmenets. C'est le ton que nous voulons donner. C'est pourquoi pendant l'été, je vais aussi vous donner cette lettre de prière. Priez pour l'image de Dieu. Priez pour l'image de vous-même. Priez pour l'image des autres. Et à la fin, priez pour l'image de ce que nous pouvons faire. Clé ne grandira jamais au-delà de l'image commune que nous avons, que Dieu peut faire. Non, mais Dieu ne peut pas le faire ici. Nous ne sommes pas en Afrique. Dieu ne peut pas le faire. On n'a pas les finances des États-Unis. Dieu ne peut pas le faire. On n'est pas à Paris. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu veut le faire. Et nous devons hisser notre foi en train de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu nous rend capables. Ne dis plus, je ne peux pas. Il faut que ce langage soit banni. C'est comme un gros mot de dire, je ne peux pas. C'est comme une grossièreté. Jean-David, est-ce que tu peux approcher? On pourrait se demander une chose. Est-ce que c'est possible de voir un jour un film chrétien au Festival de Cannes? Et pourquoi pas? Raconte-nous quelque chose.
Bonjour à tous. Au début du mois de mai, effectivement, j'ai accompagné un jeune réalisateur chrétien au Festival de Cannes. Un moyen métrage qu'il a réalisé il y a 2 ans a été retenu au marché du cours. Et donc il a présenté ça. Donc on pouvait dire effectivement qu'on n'était pas certes en compétition officielle, mais qu'à ce moment-là, il y a eu à Cannes un court-métrage qui a été visualisé par plusieurs personnes et professionnels du cinéma, un court-métrage manifestement chrétien sur la conversion d'un ancien chef de gang punk qui est pasteur aujourd'hui à Pau. On allait à Cannes aussi parce qu'il avait certes ce projet-là, mais c'était un peu un ticket d'entrée parce qu'il a un projet de long-métrage. Et ce jeune-là a 21 ans, il est en licence de cinéma, et il n'a manifestement aucun problème de complexe de dire « je ne peux pas » parce qu'il y croit. On a rencontré des producteurs, on a eu un très bon contact avec un coproducteur d'Amélie Poulain qui a vu des séquences de son moyen-métrage, qui a écouté l'histoire et le scénario de ce projet de long-métrage et qui a vu vraiment un gros potentiel. Cet ami, Jérémy Santander, a eu un très bon contact téléphonique avec Jean Dujardin pour un rôle dans ce projet de long-métrage. C'est quelque chose qui est vraiment en train petit à petit de se concrétiser. Et ce jeune-là, quand on l'écoute, il n'est pas en train de se dire « c'est une chance incroyable qu'on ait pu être ici, pourvu que ça se reproduise un jour ». Non, lui, il a la ferme conviction à la fois qu'il va aller monter ses marches à Cannes, et que cette fois, il y aura les photographes des deux côtés, et que ce film-là, comme tout son ministère, il veut vraiment influencer le milieu du cinéma français, véhiculer des valeurs évangéliques, des valeurs de vie, qui, on ne peut pas dire malheureusement, soit l'habitude du cinéma français, du cinéma en général. Donc c'est parfaitement possible. On n'en a vécu qu'un bref échantillon pendant 10 jours. Et rappelez-vous de cette histoire, parce que ce jeune Jérémy Santander, il a 21 ans, mais vous le verrez sur TF1 dans pas très longtemps. Donc rappelez-vous de son nom.
Merci Jean-David. Dieu fait des choses extraordinaires. Il y a un jeune chanteur qui s'appelle, je crois que son nom de scène c'est Exence, il s'appelle Dan normalement. Il est en train de percer d'une façon extraordinaire en ce moment dans le monde entier. Il va faire une tournée à Bangkok bientôt. Et il a un ami qui s'appelle Florent Pagny, si ça vous dit quelque chose, qui lui a demandé, écoute, sur tous tes chants, tu fais un lien sur mon site. Et je te renvoie ça. Également, son impresario lui a dit à ce jeune Dan, il faut que tu aies une marque de vêtements à toi. Alors, j'ai 3 amis, je les ai connus, ils avaient moins de 20 ans. Ils sont en Suisse. Et chaque fois que je les revois, un d'entre eux s'appelle Timothée, donc chaque fois que je les revois, ils me donnent des nouvelles de leur projet, de leur vision. Moi, je suis quelqu'un, je fais comme ça, j'encourage toujours les visions, toujours. Alors je les ai encouragés quand ils étaient tout jeunes. Et d'année en année, on se revoit, de temps en temps, ils envoient un mail. Et là, aujourd'hui, Ixant, ce chanteur-là qui perce, vous pouvez taper dans n'importe quel site non chrétien, vous avez, je n'aime pas particulièrement sa musique, je pourrais dire, mais par contre, c'est quelqu'un qui est très clair sur son message. Ben, il perce, et aujourd'hui, il les a contactés pour leur dire, c'est vous qui allez faire ma boîte de vêtements, ma marque de vêtements. Et aujourd'hui, c'est trois jeunes qui sont encore dans leurs études. Oh, il y en a même un qui fait un BTS commercial, même pas des grands niveaux, sont en train de sortir des marques de vêtements à grande échelle. Et là, ils partent faire la tournée à Bangkok et ils ont pris des décisions extraordinaires. Nous voulons que Dieu ait la première place en toutes choses. Les décisions seront toujours prises à l'unanimité dans la foi entre les dirigeants. Il n'y aura que des disciples de Christ consacrés dans le conseil d'administration. 10% des revenus bruts de l'entreprise seront versés à l'Église. Les finances seront gérées de manière transparente. L'Église s'engage à verser les salaires à date prévue. L'entreprise ne fabriquera aucun produit nuisible à la santé physique ou spirituelle des personnes. Je vois des décisions claires et une percée aujourd'hui dans ce qui se fait. Vous savez, il faut nous élargir parce que Dieu peut faire de grandes choses aujourd'hui. Cette jolie fille s'appelle Julia Vukalenko. C'est une championne de tennis. Elle est dans une des églises à Montpellier. Elle est classée. Elle était 50e ATP, elle a été blessée pendant 6 mois, donc aujourd'hui elle a un peu reculé. Mais en ce moment, elle est à Wimbledon. Et cette fille-là sera parmi nous dans quelques mois pour un culte Café Croissant. Il se passe des choses aujourd'hui. Il se passe des choses aujourd'hui autour de nous. Un grand projet de centre chrétien à Paris. Pour ceux qui ne savent pas, Paris c'est en France. Parce qu'on croit que ce genre de choses peuvent arriver qu'aux États-Unis. Il y avait une annonce, peut-être vous ne la voyez pas, mais c'est à vendre, en plein cœur de la ville nouvelle, le Sénart. En fait, ça s'appelle Lieu Saint, exactement. À Lieu Saint. Un ensemble immobilier comprenant un château du XXe siècle d'une surface de plus de 2000 mètres carrés, avec des dépendances, et un parc arboré de 70 500 mètres carrés. Plus un ensemble de locaux d'activité, d'entreposage, d'une surface totale bâtie de 15 000 mètres carrés sur un terrain de 49 000 mètres carrés. Ces deux propriétés viennent d'être achetées par un homme d'affaires qui s'est converti, qui est devenu chrétien, qui maintenant est pasteur, et il vient d'acheter cet ensemble-là à Paris. Et ce qu'il va y avoir là, c'est des écoles, une université, des entreprises de toutes sortes sur place, des centres de concert, une salle de conférence de 25 000 places, parce que cet homme, à la fois, que Dieu peut faire de grandes choses aussi en France, il est en train de se passer des choses dans notre pays aujourd'hui. Dieu est grand et il nous apprend à penser grand. Est-ce que Dieu est capable de faire à Paris? Ça, c'est le centre. Ça, c'est l'endroit où ils auront les bureaux. Vous voyez le château. Ça, c'est toute l'usine avec les 15 000 mètres carrés. Et ils vont encore construire à côté des choses parce qu'il y a des choses qui peuvent être construites. Et ils vont accueillir ici, il y a déjà une dizaine d'églises de Paris qui vont louer des salles, parce qu'il y a des salles de 300 places, 500 places, 800 places. Et ça va devenir un immense complexe chrétien ici. Dieu est grand et il nous appelle à penser grand. Et on ne peut plus aujourd'hui se plaindre. Oui, mais on est en France. On ne peut plus se plaindre, mais on est à Montpellier. Dieu est grand et même ici. C'est à nous de sortir de notre petitesse. C'est à nous de sortir de la cage aujourd'hui. Nous servons un Dieu de possibilités. Cesse de tourner en rond comme un petit hamster dans ta cage d'incrédulité. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à sortir de la cage comme un lion et à aller à la conquête des projets de Dieu qui sont devant nous. Si on peut mettre un CD musical, et nous allons terminer juste en priant, juste à la fin de ce morceau de CD musical, je vais rappeler l'équipe de louanges pour qu'on puisse chanter ensemble « J'ai foi en toi », non pas pour danser le rock avec Isabelle, on fera ça une autre fois, mais pour qu'ensemble on décide de sortir de la cage. Le chant numéro 4, s'il vous plaît. Et puis simplement, on va se lever ce matin. Si tu sais que tu dois répondre à ton Dieu, sur l'image de ton Dieu, sur l'image de toi-même, tu sais que tu dois sortir de la cage. Bien, moi, je ne vais pas en dire davantage. Il y a eu beaucoup de paroles ce matin. Mais si tu sais au fond de toi que tu dois répondre, que tu veux quitter le culte à Mercure, mais que tu veux venir au culte au Dieu vivant et dire « Qui est semblable à mon Dieu ?» Je ne m'appuierai plus sur moi-même. Je veux vivre par la foi dans un Dieu grand et glorieux. Je quitte ce qui était l'incrédulité. Je quitte la cage de ma petitesse et je vais m'appuyer sur mon Dieu. Si c'est ta décision nette ce matin, je te demande de sortir des rangs et d'approcher ici. avant que l'on chante « J'ai foi en toi ». Maintenant, c'est un moment de décision. Saint-Esprit, vois ton peuple, vois tes enfants, vois les blocages. Saint-Esprit, viens pour changer cette image qui est au-dedans de nous. Tu fais quelque chose dans notre pays. Tu es à l'œuvre, tu es à l'œuvre, Seigneur. Nous entendons ça avec ce festival de Cannes, avec ce film, avec ce centre à Paris, avec ces champions qui viennent habiter en France comme cette femme parce qu'elle sait que tu vas faire quelque chose dans ce pays. C'est pourquoi nous quittons tout ce qui est image négative de toi. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Nous voulons que Clé soit une église de la foi dans laquelle tu es adoré pour qui tu es, le Dieu de gloire, le Dieu glorieux et magnifique. Merci Seigneur. Si on peut monter un peu le son de la musique, et je vais demander à tous ceux qui s'avancent de lever vos mains et d'être là pour adorer. Oui, c'est mon désir de t'honorer, dit ce chant. Oh, c'est pourquoi je te donne mon âme, je te donne mon cœur. Encore un peu, s'il vous plaît.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.